L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Oui, Père éternel, on veut te louer ce soir. On veut t'adorer, t'exalter. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, pour ton amour pour chacun d'entre nous. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole que tu nous as laissée. Et aussi, Esprit de Dieu, on veut te remercier parce que tu es là avec nous pour nous inspirer, pour nous diriger tout au long de cette soirée. On veut t'accueillir, Seigneur Dieu. On veut vraiment célébrer ta présence et déclarer notre dépendance sur toi. Seigneur, tu es tellement bon et merveilleux. Puis on sait que tu veux que chaque personne ici soit rencontrée ce soir. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je suis content de vous voir ce soir. Vous savez, on est un bon groupe, gloire à Dieu, mais saviez-vous que la semaine passée, on était 1600 personnes dans cette classe? 1600! Ouais, 1600 personnes. Vous dites, mais comment on a fait pour rentrer ici? Grâce aux médias. Mais c'est merveilleux. Et puis, c'est que nous, on peut grandir et connaître les choses de l'esprit et vivre des choses bénissantes. Mais en même temps, au-delà de ces quatre murs, il y a des gens aussi, je crois, qui sont en train de progresser. Et puis, vous savez, partout à travers le monde, en ce moment, il y a plusieurs églises où il y a cette ouverture et cette recherche de la présence de Dieu, cette recherche des paroles de connaissance, paroles de sagesse, où les gens veulent couler dans le Saint-Esprit. Et puis, nous, on fait partie de ceux qui aiment l'Esprit de Dieu. Puis on veut vraiment vivre des grandes choses. Mais partout à travers le monde, là, c'est vraiment ça qu'on voit en ce moment. L'autre semaine, c'est ma soeur Manon qui me racontait que son fils, qui est en Nouvelle-Zélande, il vit des choses semblables avec Jeunesse en mission. Donc l'Esprit de Dieu fait du ministère même en Nouvelle-Zélande, au Canada où il fait froid, en Californie où il fait chaud. L'Esprit de Dieu se promène partout, même si peut-être nous, on n'irait pas dans des régions très, très froides, glaciales comme en Arctique. Mais même là, dans l'Arctique canadien où j'avais été prêché à moins 55 degrés dehors, là. L'Esprit de Dieu était là aussi. Il n'y a pas de limite. Hein? L'Esprit de Dieu veut rencontrer les gens. Et puis, Dieu, par exemple, va toujours se servir de personne pour rencontrer quelqu'un d'autre. Hein? Pour prier pour les malades, il va prendre les mains de quelqu'un. Quelqu'un va imposer les mains sur une autre personne. Et puis, Dieu va guérir de cette façon-là, par exemple. Mais Dieu va se servir de nous. Nous sommes le corps de Christ. Vous croyez ça? Donc, vous êtes le corps de Christ et Dieu veut se servir de vous pour être une source de bénédiction pour les gens. Et ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a établi des choses. La première soirée, c'était sur les fondements du ministère prophétique. Et la semaine passée, on a parlé de plusieurs choses, mais on s'est positionné dans la foi pour justement connaître un peu comment on peut marcher dans les dons spirituels. Et je veux vous encourager, si vous n'avez pas eu l'opportunité de tout écouter, on bâtit hein, d'une semaine sur une autre semaine. Si vous manquez quelque chose, retournez écouter la semaine passée ou la semaine précédente, parce que si vous manquez une semaine, vous manquez des éléments vraiment importants. Ceci dit, aujourd'hui, je vais faire quand même un petit rappel sur les choses qu'on a vues. On va commencer avec une courte révision ce soir. Donc, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Joël chapitre 2 et le verset 28 à 29. Parce qu'on va juste faire un petit retour aujourd'hui pour s'assurer qu'on a quand même une bonne base ensemble. Et après, on va décortiquer un petit peu le ministère prophétique dans une église locale, donc localement, en public. Et aussi le ministère prophétique dans nos vies, donc sur la rue, dans notre église, dans un groupe vie, peu importe le contexte, mais l'Esprit de Dieu nous appelle tous et chacun à être surnaturel. Le croyez-vous, ça? Que Dieu vous appelle à être surnaturel. En fait, vous êtes des créatures surnaturelles. Si vous êtes sauvés, nés de nouveau, vous êtes surnaturels. Bon, combien d'entre vous, en levant la main, combien d'entre vous vous sentez surnaturel? Ah! Vous ressentez, là! OK. Avez-vous bien compris ma question? C'est correct si vous sentez que je me sens vraiment surnaturel. Mais combien d'entre vous, vous ressentez vraiment « Oh, je me sens surnaturel? » Bon, ben c'est quand même un moyen. Là, je ne demanderai pas ceux qui ne sentent pas surnaturel parce que je vais déduire, c'est ceux qui n'ont pas levé les mains. Mais qu'on le ressente ou non, si vous êtes sauvé, l'Esprit de Dieu vous habite. Plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Vous avez Dieu qui habite votre corps. Et puis, gloire à Dieu, on peut faire des exploits avec le Seigneur. Donc, la première chose qu'on veut revoir ce soir, c'est que tous les croyants sont appelés au ministère surnaturel. Et les preuves bibliques, on va relire ce soir Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Il est écrit, Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc ce texte, c'est un texte qu'on connaît bien, mais ici ça nous dit, c'est une preuve biblique que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu va être répandu sur toute chair et on fait partie de ces gens-là qui vont recevoir et qui recevront déjà l'onction de Dieu dans nos vies pour prophétiser et pour recevoir des visions. Amen. Et une des choses importantes, c'est dit, dans les derniers temps, bon, après cela, je répandrai mon esprit. Dans le livre des Actes, ça nous parle justement dans les derniers jours, que l'Esprit de Dieu va faire ces choses-là dans les derniers jours. Et en ce moment, partout à travers le monde, ça se produit. En ce moment, partout où vous pouvez vous promener, il y a des gens qui exercent les dons spirituels, qui marchent dedans. Puis autrefois, pendant longtemps, comme dans les années 50, par exemple, il y avait des évangélistes qui avaient des réunions, des prédicateurs qui avaient des réunions sous des chapiteaux, par exemple. Et puis là, on avait des grandes foules et les gens venaient pour recevoir de l'onction du prédicateur en question. Et c'est correct d'avoir un prédicateur qui prêche et que cette personne-là soit revêtue d'onction, c'est correct. Mais je ne crois pas qu'on est dans l'époque où c'est toujours juste une personne en avant qui a une onction, mais cette onction-là est pour tous et chacun. Nous sommes tous appelés à marcher dans le surnaturel. Et une autre preuve, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Donc 1 Corinthiens 12, verset 7. Nous lisons « Or à chacun... la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, à chacun. Et comme on a vu depuis le tout début de la série, nous sommes tous des chacun. Amen. On est tous, on fait partie du chacun. Individuellement, nous avons tous reçu le Seigneur. Et donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, je suis censé manifester l'un des dons spirituels que nous avons étudiés dans les semaines précédentes. Donc, c'est tout à fait normal. C'est normal, puis c'est, en fait, le fait de ne pas fonctionner ou de ne pas jamais manifester des dons spirituels, c'est ça qui est anormal. OK? C'est ça qui est plutôt anormal quand nous lisons la Bible. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Donc, ça, c'est anormal. Mais le fait d'avoir les dons spirituels en opération dans nos vies, ça, c'est juste la vie chrétienne normale, comme nous lisons dans le Nouveau Testament, par exemple. Et aussi, rappelez-vous que dans l'Église primitive, au tout début, on appelait les chrétiens les petits Christ. En fait, chrétien, ça vient de ça, les petits Christ. Et Christ, ça nous parle ici de l'onction. Amen. Donc, l'onction, vous êtes les petits oints. Quand on dit Jésus-Christ ou Jésus-Christ, peu importe comment vous prononcez, Christ, c'est pas le dernier nom du Seigneur Jésus. C'est pas comme Tremblay ou Sphinx, par exemple. Hein? C'est vrai. Mais Christ nous parle d'onction. Sauf que ce qu'on veut comprendre, c'est que nous sommes des petits Christ aussi. Peut-être on le dira pas à tout le monde, mais on doit comprendre, nous sommes sauvés. Hein? Nous sommes sauvés parce que la façon des fois, les gens vont peut-être mal comprendre. Surtout au Québec, mais vous êtes des petits Christ dans le sens que vous êtes des petits oints de Dieu. Amen. Donc, vous êtes oints du Saint-Esprit. L'onction de Dieu est sur vous. C'est qui vous êtes, en fait. Vous êtes les oints de Dieu. C'est pour ça, si vous croyez qui vous êtes, si vous croyez vraiment que vous êtes un chrétien, si vous croyez vraiment, en anglais, c'est « Christian », on peut le voir Christ dans le nom. Mais pour nous, français, en français, c'est chrétien. On le voit pas aussi bien, là. Mais en fait, le fait d'être chrétien, c'est d'être un oint de Dieu. Si vous commencez et vous n'êtes pas obligé de commencer à croire, mais si vous croyez déjà, je suis un oint de Dieu, ben là, déjà là, vous êtes bien parti. Parce que si vous voyez comme un pauvre pécheur, puis là, je mérite rien. On l'a déjà vu dans les semaines précédentes. Si vous pensez, ben, je mérite pas les dons du Saint-Esprit, on peut vous dire, c'est vrai, vous ne méritez rien, parce que les dons du Saint-Esprit sont justement ça, sont des dons. OK? Donc, on ne se disqualifie pas. Vous êtes tous qualifiés si vous êtes un enfant de Dieu. Amen? C'est que vous êtes qualifiés, vous êtes un oint de Dieu. Si aujourd'hui, vous êtes là puis vous pensez, oh, je suis un moins que rien, puis je ne sais pas si Dieu va se servir de moi, Faut vraiment faire le ménage ce soir de vos pensées. Faites le ménage, puis dites pas « Non, je suis pas assez bon, je suis pas assez si ou je suis pas assez ça. » Non, vous êtes un enfant de Dieu, vous étiez un vieux pécheur avant, mais le Seigneur vous a sauvé, vous a lavé, vous a purifié et vous a accordé son onction. Et vous êtes loin de Dieu. Ça fait que je voulais juste prendre ce temps-là pour que vous puissiez vraiment comprendre. Ce soir-là, l'Esprit de Dieu va se servir de moi. Amen. Là, quand j'ai dit de moi, je parle pas de Joël Spink, je parle de vous, là. C'est que l'Esprit de Dieu va se servir de vous. Le croyez-vous? OK. Et vous savez, l'Esprit de Dieu est dans cette place. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et nous avons tous reçu l'onction comme nous avons été sauvés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est en chacun de nous et sur nous, avec nous. Donc, l'Esprit de Dieu est ici ce soir dans cette classe. Le voyez-vous? Amen. L'Esprit de Dieu est ici avec nous, donc c'est sûr et certain que le Seigneur va se manifester ce soir dans cette place. C'est sûr et certain. Donc la première chose qu'on voulait voir, c'est que tous les croyants sont appelés au ministère surnaturel. C'est votre appel. Et on sait que le ministère que nous avons tous, c'est le ministère de la réconciliation. Donc quelqu'un qui est perdu, par exemple, dans ses péchés, bien nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais la façon qu'on peut le faire, c'est pas nécessairement toujours d'une façon terre à terre. Mais non, on peut avoir le Saint-Esprit qui vient nous donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. On peut profiter. On peut prier pour les malades, on peut vraiment prouver que le message que nous prêchons est vraiment vrai, la vérité. OK? Donc, tous les croyants sont appelés au ministère surnaturel. Deuxième chose, l'Esprit distribue ses dons à tous les croyants comme il veut. Et là, on a décortiqué ça parce qu'on a cru pendant longtemps, et on a bien fait de le faire, que l'Esprit de Dieu distribue les dons du Saint-Esprit comme il veut. Mais nous, souvent, ce qu'on a fait, on a enregistré ça et on a dit, OK, ça veut dire Dieu distribue les dons du Saint-Esprit s'il veut. Et c'est comme ça qu'on a compris ça. Si Dieu le veut, il va faire quelque chose, il va donner un don. Puis s'il veut pas, ben il n'y a rien qui va se passer. Et on a attendu longtemps, pensant, ben peut-être un jour Dieu va se manifester. Mais pourtant, on a lu avant, c'est-à-dire, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, la manifestation de l'Esprit est donnée, et surtout, on est tous des enfants de Dieu ici. Donc, forcément, l'Esprit de Dieu va se manifester d'une certaine façon. Mais là, on a vu, l'Esprit distribue ses dons à tous les croyants comme il veut. Mais là, on a posé la question, mais comment est-ce qu'on peut savoir ce que Dieu veut? Bien, c'est selon les besoins d'une situation. Dieu connaît les besoins dans la vie des gens, et puis l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse répondre aux besoins des gens selon son cœur. Donc, si, admettons, vous évangélisez quelqu'un, bien là, Dieu connaît le besoin de la personne. Peut-être la personne a besoin d'avoir une parole de connaissance. Peut-être le Seigneur veut que vous puissiez parler d'une chose dans sa vie en ce moment-là. Et Dieu va vous inspirer. Peut-être l'Esprit de Dieu va vous appeler à exercer le don des guérisons. Peut-être la personne a besoin de recevoir une guérison. Donc, vous ne connaissez pas nécessairement le besoin, mais l'Esprit de Dieu qui est en vous connaît le besoin de la personne. Donc, si vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est sur vous. Et là, vous pouvez opérer dans peu importe les dons de l'Esprit que Dieu a en réserve pour la personne dans le besoin. Vous comprenez? C'est qu'on a fait fausse route quand on se disait, ben c'est comme il veut. Ça, c'est vrai parce que c'est la Bible. Donc, Dieu distribue les dons du Saint-Esprit comme il veut, mais ça s'adonne qu'il veut rencontrer les besoins des gens. Donc, l'Esprit distribue ses dons à tous les croyants comme il veut, c'est-à-dire selon les besoins de l'humanité. Et là, on a lu dans 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Le texte ne dit pas « s'il veut ». Mais comme il veut. Donc, enregistrons aussi la partie « il veut ». Dieu veut. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas là juste exceptionnellement. Peut-être des fois, si vous êtes assez saint, que là, les dons vont se manifester. Mais ça dit « comme il veut ». Donc, Dieu veut, mais il y a une façon que ces dons-là vont se manifester. Comment pouvons-nous savoir ce que l'Esprit de Dieu veut? L'Esprit veut combler les besoins des gens. Puis on a passé, je pense, la première soirée juste là-dessus parce qu'on a besoin de comprendre que Dieu veut vraiment se glorifier par les dons du Saint-Esprit. Et une troisième chose, on a trois responsabilités en tant que croyants. Trois responsabilités. Si nous voulons opérer dans les dons du Saint-Esprit, la première chose que nous avons besoin de faire, c'est aspirer au prophétique. Je dois aspirer. Et on a décortiqué ça pendant la première soirée. Aspirer, ça nous parle ici de vraiment désirer ardemment. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, ça nous dit rechercher la charité ou rechercher l'amour. C'est une chose importante parce que même si on a les dons du Saint-Esprit, si on ne marche pas dans l'amour, on peut blesser les gens. Donc, rechercher l'amour, aspirer ou brûler de zèle. En grec, ce mot-là se traduit comme ça, une expression qu'on peut prendre pour définir le mot « aspirer ». Ça nous dit « brûler de zèle, aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Surtout, on devrait brûler de zèle, surtout pour prophétiser. » C'est spécial ça, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas juste là, dans l'attente, on n'est pas passif, puis juste de... Que sera, sera, whatever will be, si Dieu le veut. Hein? C'est si Dieu le veut. Non, c'est pas ça. C'est comme il veut. Donc, Dieu veut. Dieu veut, mais là, Dieu a besoin des gens qui ont soif. Dieu a besoin des gens qui veulent être utilisés de sa part. Voyez-vous? Donc, l'Esprit de Dieu cherche des gens qui sont des candidats pour lui, pour être utilisés entre ses mains. Donc, rechercher la charité, aspirer, brûler des ailes aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Deuxième chose, je dois décider de me positionner spirituellement. Vous ne pouvez pas choisir, par exemple, ben moi, c'est tel don que je vais choisir ce soir. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui va distribuer selon sa volonté. Mais vous, votre volonté est impliquée dans le sens, vous allez décider si vous allez vous consacrer pour recevoir les dons ou pour manifester les dons. C'est vous. On décide si on va manifester quelque chose. Quelqu'un qui décide de dire, par exemple, bien moi, ce soir, au lieu d'aller dans cette soirée, moi, je vais écouter la TV. Mais la personne a décidé d'écouter la TV, mais à cause de cette décision-là, la personne risque de ne pas recevoir des dons spirituels en opération. N'est-ce pas? Est-ce que c'est un péché, ce que je vous dis là, écouter la TV? C'est pas un péché, mais c'est une question de positionnement. Donc, si je décide de me positionner dans la foi, bien, je peux vivre, justement, le surnaturel. Donc, je décide si je vais me consacrer et me positionner pour entendre sa voix. Et 1 Samuel 3:10, on a donné un fondement biblique aussi, où Samuel a répondu au Seigneur, « Parle, car ton serviteur écoute. » Ça devrait être notre cœur ce soir, dire, « Parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. » Amen. Je décide si je veux vivre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ça aussi, c'est une décision qu'on peut prendre, décider si on veut vivre en communion constamment avec l'Esprit de Dieu. Et je vous ai mentionné un prédicateur. Je pense la première fois que je l'ai entendu prêcher, la première fois, en fait, c'est en Californie. Je l'ai entendu prêcher dans l'église là-bas du pasteur Cheon, H-Rock Church à Pasadena. Et puis, c'était Todd White. Et Todd White, c'est un homme vraiment spécial. Il a vécu en prison. Il a tout un témoignage vraiment impressionnant. C'est un homme qui a accepté le Seigneur. Et puis, il a passé beaucoup d'années en prison à lire la Bible. Puis, vous savez, des fois, c'est bon, ça. Pas nécessairement aller en prison, mais de se consacrer. Puis, quand on est forcé, quand on est en prison et on n'a rien d'autre à faire, bien, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il a bien investi son temps. Parce que c'est un homme connecté avec Dieu. Je me souviens plus trop s'il était sauvé. Je pense qu'il était sauvé en prison, mais en tout cas, bref. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que cet homme-là, après seulement 10 ans de vie chrétienne, il connaît la Bible comme ça, vraiment super bien. Je l'ai écouté prêcher pendant 2 heures un soir. Là, il prêchait souvent entre 1h30 à 2 heures. C'était toujours long. Puis il faut être préparé, être bien assis. Surtout quand on écoute des prédications du matin au soir, comme on a fait dans la conférence là-bas en Californie. Mais tout ça pour dire, cet homme-là ne fait pas juste prêcher. Il vit constamment l'Évangile. Et il a ce désir d'être toujours connecté avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis on le voit partout sur YouTube, si vous voulez. Vous pouvez découvrir son ministère, mais... Il va toujours racheter le temps, peu importe où il se retrouve. Il veut toujours être un instrument entre les mains de Dieu. Puis on peut dire, bien, on peut couler dans les dons du Saint-Esprit quand l'onction arrive. Et ça, c'est vrai. Quand l'onction est là, on peut couler dans les dons du Saint-Esprit. Ceci dit, on peut aussi choisir d'habiter dans l'onction. C'est ça qui est la différence. On peut choisir d'être constamment dans l'onction. C'est ça qui est vraiment révolutionnaire. Parce qu'on voit quelqu'un comme lui, il est toujours dans l'onction. Et puis... Il se tourne, admettons, il est à l'aéroport, il peut être là, parler avec une personne, puis là, la personne quitte pour aller s'acheter un café. Ah, ben là, j'ai 5 minutes, je peux peut-être évangéliser quelqu'un d'autre. Et puis, il évangélise quelqu'un. Puis là, il dit, ah, ben vous, madame, vous avez mal à cheville. Oui, comment vous savez ça? Ah, ben Jésus vous aime, vous êtes fantastique, Dieu veut vous rencontrer. Il prie pour la personne, cette femme-là est guérie surnaturellement. Ça, c'est bon. Là, la personne revient avec son café. OK, là, il poursuit. Et puis, c'est comme ça, constamment en train de guérir les malades, prier pour les malades, donner des paroles de connaissance, paroles de sagesse. Puis, on regarde quelqu'un comme ça, puis on se dit, ah, ben ça, c'est juste une personne très spéciale. Ou c'est la façon que les disciples du Seigneur fonctionnaient toujours. Est-ce que ça se peut que c'est nous autres, les chrétiens, je sais pas, refroidis, on est juste anormal? Et si on nous transposait dans le temps de l'Église primitive, qu'on verrait beaucoup plus de choses? Moi, je pense qu'il y en avait plusieurs Todd White à l'époque. Plusieurs frères et sœurs qui opéraient dans le surnaturel. Là, on peut soit dire, oh, c'est plate, hein, on n'est plus comme eux. Ou on peut dire, ah, on a le même Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose. Et on peut se connecter aussi et choisir de vivre dans cette bulle de la présence de Dieu. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Donc, je veux aspirer à ces dons-là. Donc, si j'aspire aux dons spirituels, ça veut dire premièrement que j'ai une ouverture. Hein? Parce que des fois, il y a des gens qui sont même pas là, ou ils veulent même pas être utilisés de la part de Dieu, mais au contraire, qui veulent rien savoir, qui disent « Ah non, ça vient du diable ». On a aussi mentionné dans les autres soirées que les dons du Saint-Esprit vont toujours être imités par le diable. Vous vous rappelez de ça? Donc, le diable, lui, va toujours imiter le vrai. Donc, on ne peut pas dire « Ah, ben ça existe dans le monde occulte, donc forcément, nous, c'est de Satan. » Non, on a le vrai, la Bible, c'est vrai, les dons du Saint-Esprit sont véridiques, mais le diable va imiter le vrai. Donc, on a vraiment quelque chose qui a de la valeur, parce qu'on fait, on imite seulement des choses qui ont de la valeur. On n'imite jamais de la cochonnerie. Hein? Il n'y a personne qui dit « Ah, moi, je vais au Dollarama, là, puis j'essaie d'imiter leur stock. » Hein? Non, on va l'acheter tout court à 1 piastre. Hein? Mais on va imiter le diamant, puis on va faire des cubiques, des zircons. Hein? Bon, pourquoi? Parce que le diamant vaut quelque chose. Mais c'est rare que les gens vont dire « Ah, je veux imiter un zircon. » Non, le zircon, c'est l'imitation. Hein? Donc, nous, on n'imite pas le monde, mais c'est le monde qui nous imite. On ne rejette pas les dons du Saint-Esprit. On dit « Seigneur, on y croit », parce que dans 1 Corinthiens 1, verset 7, ça dit « Il ne nous manque aucun don maintenant jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus ». On sait que le Seigneur Jésus n'est pas revenu chercher son Église, donc les dons du Saint-Esprit sont encore pour nous ce soir. Amen. Donc, je dois décider de me positionner spirituellement dans l'onction, gloire à Dieu. Et puis là, je décide aussi, si je vais obéir l'Esprit lorsqu'il m'invite à prendre un pas de foi, c'est là aussi que je décide. Si l'Esprit de Dieu vous dit, OK, ben là, je vous appelle à faire telle chose, puis là, vous dites, ben je peux pas moi, quelqu'un d'autre. On a vu aussi que des fois, on peut faire ça. Surtout des fois, au début de la vie chrétienne, on a peur. Et puis, je vous ai mentionné le frère Mario Mascotte, où au tout début, Dieu lui avait donné une parole prophétique, mais il était trop gêné. Il a refusé de donner cette parole-là. Quelqu'un dans l'église a commencé avec la même parole, a prophétisé, et ensuite la personne est allée le voir pour lui dire à la fin de la réunion, hey, « En passant, l'Esprit de Dieu me dit que c'était toi qui étais supposé donner la parole. » Vous vous rappelez de ça? Donc, on sait que l'Esprit de Dieu veut se servir de nous, mais la crainte souvent nous empêche d'opérer dans le miraculeux à cause de la crainte. Mais la crainte, c'est quoi ça? C'est la peur de l'homme, n'est-ce pas? La crainte, c'est de l'orgueil aussi. On va voir ça ensemble. On va le voir ce soir, c'était dans mes notes jusqu'à la fin, je vous ai volé le punch. Mais la crainte en fait, là, c'est de l'orgueil. Pourquoi? C'est de l'orgueil déguisé. Pourquoi? Parce que ben, si je dis quelque chose puis je me trompe, mais là, je vais avoir l'air de quoi? Là? Ça va être humiliant. Ah, mais là, à ce moment-là, vous risquez, vous ne voulez pas parler parce que vous avez peur que vous allez mal paraître. Mais si la parole que Dieu a déposée en vous, si c'est vraiment de Dieu, et si ça rencontre vraiment le besoin de votre voisin ce soir, puis votre voisin est vraiment béni, bien, ça c'est merveilleux. Mais vous refusez de remettre ce don-là entre les mains de votre frère ou votre soeur parce que vous avez peur que vous allez peut-être mal paraître. Bien là, ça devient quoi ça aussi? Ça devient de l'égoïsme, n'est-ce pas? Hein? Aussi? Oh, on s'en va en profondeur. Bien là, vous pensez à vous. Puis là, ben je vais avoir l'air de quoi là si je me trompe? Si vous vous trompez, c'est pas la fin du monde. Parce qu'on est dans une place en sécurité ici en plus ce soir. Il n'y a même pas de caméra. C'est merveilleux. On ne vous verra même pas. C'est super. Est-ce qu'on peut se tromper? Bien là, je pensais si on se trompait, on était un faux prophète. Bien, si vous allez sur Internet et vous déclarez telle date, ceci va arriver, il est comme, pas il est écrit, mais ainsi parle le Seigneur. Puis là, vous vous trompez, ben OK, peut-être que vous êtes un faux prophète. Mais si vous êtes avec votre voisin ce soir, puis après avoir cherché la face de Dieu, puis vous ressentez, je ressens dans mon cœur que cette parole-là, est-ce que ça dit quelque chose? Votre voisin pourra dire ce soir, ben oui, ça me dit quelque chose, ou non, pas encore, mais peut-être que ça va me dire quelque chose plus tard, je ne sais pas. Mais il n'y a personne qui va être crucifié ce soir ou lapidé, hein, gloire à Dieu. Ça fait que on est dans une place en sécurité où on peut grandir dans les dons spirituels. Ça fait que c'est important, ça. Ça fait que trois choses qu'on voulait voir, je dois aspirer à prophétiser, je dois décider à me positionner spirituellement et je dois chercher à posséder avec abondance les dons spirituels. Ce qui veut dire que ça devient un mode de vie. Parce qu'en abondance, là, ça veut dire que c'est souvent, constamment. Mais comment est-ce qu'on peut souvent avoir les dons du Saint-Esprit en opération dans nos vies? Bien, ça commence avec un premier pas. Je vais vous lire le verset en question. 1 Corinthiens 14 et le verset 12. Ça, c'est un bon verset. 1 Corinthiens 14, verset 12. Nous lisons, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Ça veut dire souvent ça. Vous n'avez souvent ça l'abonde, et puis ça coule. Vous êtes comme un canal pour les dons du Saint-Esprit. Voyez-vous ça? Je dois chercher à posséder avec abondance les dons spirituels en recherchant la présence de Dieu. Si je recherche Dieu, et si je suis ouvert à ce que ces dons-là se manifestent dans ma vie, mais gloire à Dieu, ça va devenir une chose abondante, une évidence dans ma vie. Donc, je vais le relire. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, pas juste occasionnellement. On s'est satisfait. Bien, à l'occasion, une fois ou 10 ans, des fois Dieu me donne une parole pour quelqu'un. Ou une fois ou 10 ans, des fois je prie pour un malade. Ou des fois je prophétise, une fois aux 15 ans, 20 ans. C'est pas avec abondance, ça. Parce qu'imaginez, l'Église primitive, c'était comme ça. Si l'Église primitive était comme nous, là, imaginez, eux se faisaient tuer pour leur foi. Et nous, des fois, on a peur de dire qu'on est chrétien. On va au travail, puis on est un chrétien incognito, par exemple. Certains ne seraient jamais. Sauf que là, on passe d'une place où les gens se faisaient tuer pour leur foi, se faisaient même nourrir, était la nourriture pour les lions, et on arrive aujourd'hui, 2000 ans plus tard, où on se cache. C'est pas la même chose. Et puis, le niveau de puissance n'est pas pareil non plus. C'est que si on sort de notre dimension de crainte et de notre vie chrétienne secrète, on peut sortir et briller pour Jésus. OK, donc, on poursuit. Je dois vivre sensible à l'Esprit-Saint pour entendre et pour répondre à son appel. Donc, ce n'est pas juste à l'occasion, mais c'est de vivre comme ça. Ça veut dire que c'est une révolution, n'est-ce pas? On va révolutionner notre vie en étant sensible à l'Esprit de Dieu. Et puis, vous savez, comme on en parle, ça peut commencer à brasser des choses en vous. Et peut-être vous sortez là au restaurant, vous êtes en ville dans un magasin, puis l'Esprit de Dieu commence à vous stimuler. Vous êtes déjà stimulé en vous, dans votre esprit, puis vous commencez à être plus sensible aux opportunités devant vous. Combien d'entre vous, OK, en levant la main, combien d'entre vous, depuis qu'on a commencé la série sur les dons du Saint-Esprit et le ministère surnaturel, combien d'entre vous avez commencé à voir plus de besoins autour de vous? Peut-être en levant la main. Commencez à avoir plus de besoins. OK, mais c'est bon ça. C'est que déjà là, vos yeux s'ouvrent et vous voyez plus de besoins. Ma femme m'a raconté un témoignage cette semaine ou la semaine passée. Elle était à l'école de ma fille pour aller la chercher après une activité d'école. Puis là, il y avait une jeune fille qui était là, qui partait de l'école et sa mère était là parce qu'elle s'était blessée. C'est que là, ma femme, au début, là, elle avait conscience, était consciente que l'Esprit de Dieu l'appelait à prier pour la jeune fille. Puis, sauf que là, elle me raconte ça, parce que des fois, on peut avoir l'idée, ça peut venir en nous, puis « Ah, est-ce que je vais le faire? » Mais tout de suite, Mathilde, elle dit « OK, je vais le faire. » Puis elle a demandé à la mère ou à la jeune fille, elle dit « Ah, est-ce que je peux prier pour vous? » Parce qu'elle venait de se blesser. Là, la mère, elle dit « Pardon? J'ai pas compris ce que vous avez dit. » Là, ma femme, a dit « Il fallait que je répète en plus. » Sauf que là, elle dit « Ben, elle dit, je vois que vous êtes faite mal. Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? » Puis sauf que la petite fille regarde sa mère, la mère, elle dit « Oh! » N'importe quoi, en autant que ça marche, c'est correct. Ça fait que là, Mathilde a prié pour la petite fille, puis là, merci. Bon, on ne connaît pas le résultat, mais elle a pris un pas de foi pour prier pour la jeune fille. Puis déjà là, c'est un témoignage, c'est comme « Ah, oh, spécial ça, merci ». Et c'est merveilleux parce que vous savez, le soir quand on a eu le frère Jonathan Bouchard, quand il est venu ici puis il a parlé de la guérison et sortir de nos églises pour aller prier pour les malades, il y avait un monsieur qui était de Québec, il a fait 4 heures de route pour assister à cette soirée-là dans la chapelle. 4 heures de route, imaginez. Il avait vraiment soif. Bien, il a commencé à faire ce qu'on enseignait il y a quelques semaines. Et puis, Jonathan Bouchard a filmé son premier ministère, là, son début. Peut-être que vous l'avez vu sur YouTube, là, mais j'ai trouvé ça bien. Donc, il a fait 4 heures de route. Il est venu ici absorber le message. Mais il a dit non, je veux passer à l'action. Je veux pas juste l'entendre. Et puis, il est allé dans le centre d'achat à Trois-Rivières. Je sais pas pourquoi ils sont allés à Trois-Rivières. Mais ils ont prié pour 2 vendeuses. Au centre d'achat. Et puis, dans les 2 cas, les vendeuses ont été guéries instantanément. Et puis, on voit le témoignage d'une jeune fille. Elle dit qu'elle ressentait du picotement ou la chaleur. Puis, aïe, aïe, c'est quoi ça? Puis, ah, c'est spécial. Puis là, elle dit, est-ce que, dans tout cas, Jonathan Bouchard, il demande à ce frère-là, il dit, est-ce que t'es nouveau là-dedans? Ça fait des années, t'as un don spécial, toi? Puis il dit, ben en fait, c'est la 2e fois que je le fais. Il a prié pour une première femme, a été guérie. 2e femme a été guérie. Il dit, donc, présentement, c'est 100% résultat. C'est bon, là. Ça fait que, ça pour dire, on peut entendre, puis après, on peut être stimulé et motivé à commencer à agir. Donc, pas juste l'entendre, puis dire, hey, c'est un bon cours ce soir. Un jour, peut-être, je le ferai. Mais pas juste un jour, on peut commencer tout de suite. Hein? Quand Dieu vous montre les opportunités, là, on ouvre tout grand les yeux, on ouvre nos oreilles, puis on peut commencer à représenter le Seigneur comme ça. OK. Donc, on veut vivre sensible à l'Esprit de Dieu pour entendre et pour répondre à son appel. Aspirez ce soir, pas un jour, là, mais aspirez ce soir à ressentir le cœur de Dieu pour le besoin de votre prochain. OK? Donc, ce soir, pendant que j'enseigne, pendant un temps, là, Vous pouvez prendre la décision. Ce soir, je vais être sensible à l'Esprit de Dieu, même pendant l'enseignement. Ce soir, là, pas demain soir, pas un jour, mais ce soir, je vais être sensible à l'Esprit de Dieu parce que comme on a dit au début, l'Esprit de Dieu est ici ce soir, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est ici et l'Esprit a des dons à donner. Donc, on veut être des distributeurs de dons. Amen. OK, donc on a fait le rappel, la révision. Et puis maintenant, on va poursuivre un peu dans l'enseignement. Donc, le prophétique dans une réunion publique. On va juste voir comment ça fonctionne, ça, le prophétique dans une réunion publique. C'est une chose qu'on veut vivre à l'Église et il faut instruire. On a déjà enseigné sur le prophétique, par exemple, dans les dons du Saint-Esprit à l'IBEM. On a donné la formation, mais ce n'est pas assez juste savoir, OK, ça existe et on les définit, mais on veut les vivre. OK? C'est pas juste assez, oui, oui. Et vous savez, on peut passer les examens de l'IBM ou de peu importe l'institut biblique, vous faites passer les examens, savoir, ben oui, OK, c'est ça, j'ai bien défini, j'ai bien rejoint, admettons, les définitions avec les mots, tout ça, c'est très bien. Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut dans la vie. C'est pas juste réussir sur papier, on veut réussir aussi dans la pratique, n'est-ce pas? C'est bien beau avoir un diplôme, puis ben là, j'ai tout compris, mais on veut marcher dedans. Et ce soir, on veut aller plus loin là-dedans. Donc, avant de prononcer une parole prophétique, admettons dans un cadre d'une église ou d'une réunion publique, une assemblée, examinez premièrement ce que vous recevez de Dieu. Déjà là, vous êtes dans une réunion et vous êtes positionné dans la foi et le Seigneur dépose en vous une parole. Okay? La première chose qu'on veut voir, c'est avant de prononcer cette parole publiquement, examinez les choses suivantes. Est-ce que la parole est un point de méditation personnelle? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu vous donne pour vous-même? Juste pour un appel à méditer un certain sujet, par exemple. Un sujet de prière. Peut-être Dieu dépose en vous un sujet de prière pour l'assemblée, peut-être pour une personne dans l'assemblée, peut-être c'est pour votre propre vie. Ou est-ce que c'est une parole pour l'assemblée? Est-ce que c'est une parole prophétique pour l'assemblée? Donc, il faut examiner ces choses-là. Parce que dans le passé, ce qu'on a déjà eu à l'église, il y avait une personne, par exemple, qui recevait une parole pour un individu dans l'église. Et puis, la personne était venue me voir pour me dire, j'ai reçu une parole et puis moi, je voulais lui donner l'opportunité de le faire, mais est allé donner une parole individuelle devant l'Assemblée, puis c'est pas vraiment ça qu'on veut faire. Quand on donne une parole prophétique pour l'Assemblée, ça devrait concerner l'ensemble de l'Église, à moins que l'Esprit de Dieu dirige autrement, puis il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Il y a des fois où l'Esprit de Dieu veut mettre un spotlight divin sur quelqu'un, puis c'est correct, mais typiquement, c'est pas toujours comme ça. Typiquement, ça va être, si c'est une parole que Dieu vous donne pour une personne, allez donner la parole à la personne en question. OK? Est-ce que j'ai le droit de parole? Aussi, il faut se poser la question. Puis là, on peut dire, mais comment savoir ça, si j'ai le droit de parole? Bon, est-ce que je suis reconnu comme étant un fidèle du Seigneur par le leadership de cette église ou du regroupement? Par exemple, si vous êtes à EVQ, on vous connaît. Mais vous êtes ailleurs, vous êtes, vous êtes en voyage, puis vous êtes dans une église où on ne vous connaît pas. Puis là, vous ressentez l'Esprit de Dieu vous donner une parole pour l'église. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ça ne se peut pas que l'Esprit de Dieu me donne une parole si je ne suis pas reconnu. Puis si, admettons, si je ne suis pas reconnu, Dieu ne le fera jamais. Il ne me donnera pas une parole. C'est pas vrai ça. L'Esprit de Dieu pourrait vous donner une parole même si vous êtes en voyage. Parce que si vous êtes constamment connecté avec l'Esprit de Dieu, puis vous vivez vraiment surnaturel, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne vivent pas. Et Dieu a besoin de vous pour parler à cette église-là. Donc, comment faire? Parce que vous n'avez pas de crédibilité nécessairement dans l'église en ce moment-là, parce que vous êtes un inconnu. Comment faire? Bien, j'écoutais le témoignage d'une sœur dans le Seigneur, puis elle venait de recevoir une parole de Dieu, mais elle dit, Seigneur, elle dit, je dois respecter l'autorité spirituelle de la place. Je suis inconnu ici. Si, Seigneur, la parole est vraiment de toi, si je ne me trompe pas, si tu veux vraiment que cette parole soit déclarée, je te prie, Seigneur, de m'ouvrir une porte. Ouvre une porte, Seigneur, pour que je puisse partager cette parole-là. Mais elle ne disait rien, elle était à sa place. Et là, le pasteur est allé au micro et a dit, dans l'église en ce moment, il y a quelqu'un qui a une parole et Dieu vous dit de la donner. Et puis là, elle s'est levée et puis elle a donné la parole. Voyez-vous comment Dieu a dit, ça a pris 2 secondes. Je venais de prier, puis là, tout de suite, le pasteur est allé donner la parole. Donc, si Dieu vous donne une parole qui doit être communiquée, bien, Dieu va vous donner l'opportunité de le faire. Puis si, admettons, vous n'avez pas l'opportunité, puis vous êtes là, puis vous dites, bien, je ne sais pas, bien, peut-être c'est juste pour prier. Peut-être c'est juste prier et que le Seigneur fasse cette chose-là. Mais on travaille toujours dans l'honneur de la maison. On ne dira pas des choses à moins d'avoir la plateforme de Dieu. Donc, c'est ça. Avant de prononcer une parole prophétique, examinez cela. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est un besoin personnel, une prière, une requête pour quelqu'un ou vraiment une parole pour l'Assemblée? Puis si je crois que c'est vraiment pour l'Assemblée, là, est-ce que je suis reconnu dans l'Église pour donner cette parole-là? Donc, prophétisez toujours dans la soumission spirituelle et avec humilité. Là, je parle toujours dans le contexte la prophétie dans une réunion publique. Donc, vous prophétisez toujours dans la soumission spirituelle et avec humilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va voir ensemble dans 1 Pierre 5:5, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 5. On va voir ensemble ici une chose importante. C'est toujours important ce qu'on dit, mais c'est important dans le sens quand on parle de l'humilité et la soumission. 1 Pierre 5:5 nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, c'est ça le désir, c'est d'être soumis et humble. Et puis, cette même sœur racontait le témoignage, elle avait été en visite dans une église, puis elle ressentait une parole pour un couple qui recevait de la prière. Et puis là, on priait pour un couple en question. Elle est allée voir le pasteur pour demander, est-ce que je peux donner une parole à ce couple-là, parce que j'ai reçu une chose pour ce frère ou cette sœur-là, ou le couple. Et puis le pasteur a dit, non. Et puis là, elle dit, j'aurais pu dire, eh bien, le Seigneur m'a parlé, t'es qui toi pour empêcher Saint-Esprit? Hein? Ça pourrait arriver. Mais elle disait, le Seigneur m'avait donné une parole, pourtant je savais que c'était pour ce couple-là. Mais elle dit, si Dieu n'avait pas ouvert la porte pour que je donne cette parole, moi j'ai gardé la parole sans avoir de l'arrogance, sans devenir arrogante. Parce qu'elle disait, des fois, elle avait vu toutes sortes de choses comme ça, des réactions, pensant si on rejette la parole, ça voulait dire qu'on rejetait la personne. Mais il faut faire attention, si quelqu'un rejette la parole, ça ne veut pas dire que la personne vous rejette. Voyez-vous? Ils ont juste rejeté la parole, c'est pas vous. Faites la différence entre la parole et vous-même. Vous n'êtes pas une parole, vous êtes une personne, un enfant de Dieu. OK? Donc, ça, c'est une des choses. Si on veut commencer à couler de plus en plus dans le prophétique, bien, on doit faire la distinction entre ces deux choses-là. Et puis, finalement, elle disait, bien, des personnes pourraient dire, bien, là, tu iras dans le stationnement puis tu donneras la parole plus tard quand le pasteur ne sera pas là. Hein? Elle dit, bien, quand on sait c'est de Dieu, elle dit non, ce ne serait pas une façon d'honorer son pasteur. Parce que là, il saurait, bien là, le pasteur a empêché ça. Elle dit, quand c'est de Dieu, Dieu va bien organiser les choses. Ça fait qu'il va avoir de l'humilité, de l'honneur et puis la soumission. Est-ce que ça fait du sens, ça? Ça, c'est une des choses. C'est une femme qui a fait le ministère prophétique depuis des années de temps. Et puis, elle dit, ça, c'est une chose. Elle dit, j'ai jamais été à l'encontre de l'autorité spirituelle parce que le royaume de Dieu est construit de même. Si on ne peut pas marcher dans l'honneur et l'autorité, elle dit, ça ne marchera pas. Ça va vraiment faire des dégâts. Donc, Dieu vous ouvrira la porte fermée dans une réunion si la parole doit absolument être partagée. Et donc, conseils faciles là, et qui sont vraiment pratiques. Parlez suffisamment fort et avec clarté en articulant. Donc, le sang-gorge de vous dire, comme ça, il n'y a pas un chat qui comprend. Vous êtes là, c'est comme, hein? Qu'est-ce qu'elle dit à la personne? On l'entend pas, mais elle prophétise dans son coin. Eh oui, le Seigneur veut faire quelque chose de bien. Puis là, on n'entend pas. Bon, c'est super. Peut-être que le don est vraiment de Dieu, mais on ne comprend rien. Parle assez fort et faut articuler. OK? Hallelujah! Hey, c'est très profond, ça, hein? OK. Et prophétiser en étant sensible à l'ordre du service. Donc, si, admettons, dans la réunion, c'est un courant de louange, d'adoration, et puis là, vous recevez de Dieu une parole, il faut être sensible aussi. Comment est-ce que je vais donner cette parole-là? Il y a une façon aussi que l'Esprit de Dieu va vous diriger dans la livraison, si on veut. Et puis, des fois, il faut se remettre en question. Si vous pensez que vous avez reçu quelque chose, mais tout ce qui se passe en réunion, ce n'est pas du tout dans la même lignée. Faites attention à ça, parce qu'il y a des gens aussi qui arrivent dans une réunion, puis ils reçoivent, ils pensent qu'ils ont reçu une parole, mais ça vient défaire toute la réunion. C'est comme, on dit en anglais, « wet blanket », là, c'est comme, c'est quelque chose qui vient tout briser. Comme il y avait vraiment un flot de l'Esprit, l'Esprit de Dieu se manifestait, les gens étaient bénis dans l'adoration, dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu, puis quelqu'un vient prophétiser, je sais pas, il y a un tremblement de terre qui va arriver dans cette église parce que vous êtes toute une gang de rebelles. Mettons, ça vient tout briser, là, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai entendu souvent dans une église, il y avait un frère qui se levait souvent pour juger l'église. Vous êtes des moins que rien, vous êtes des détestables, vous êtes comme ci puis comme ça, une gang de rebelles. Ainsi parle le Seigneur. Et puis, bon, sauf que là, on voit dimanche, c'est ce message-là, dimanche d'après, vous êtes une gang de rebelles, Dieu, ainsi parle le Seigneur, je suis vraiment frustré puis tanné que vous êtes comme ça. La semaine d'après, vous êtes une gang de rebelles, pas fin, le coup dur, coup raide. Là, on se dit, c'est très bénissant, n'est-ce pas? Premièrement, on sait que ça, c'est pas du tout de Dieu, parce que la prophétie vient bâtir. Et puis ça vient pas bâtir, ça vient détruire. Ça détruit toute l'atmosphère en plus. Puis Dieu n'est pas là avec son bat de baseball pour vous dire comment vous êtes pas beau puis pas fin. Hein? C'est pas ça que Dieu veut faire. Il veut vous bâtir et vous emmener à un autre niveau. Donc, si vous êtes à un niveau qui est assez bas, il veut vous emmener vers le haut, pas vous creuser une tombe encore plus. Hein? OK. Donc, le prophétique dans une réunion publique, ça, c'est un petit peu des conseils ou des mises au point qu'on peut faire. Pas des mises au point, mais des lignes directrices pour l'administration de ces dons-là. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent dire, « Ben, moi, j'ai reçu ça de Dieu, faut que je donne la parole, c'est plus fort que moi. » Ben, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous pouvez contrôler ce que vous allez déclarer de votre bouche. Vous pouvez attendre le temps de Dieu et puis parler quand c'est le temps, et puis avec ordre, et puis avec respect, puis honneur, tout ça. Est-ce que ça fait du sens? OK, gloire à Dieu. Là, on va aller plus dans la prophétie personnelle. C'est important quand même de parler de ces choses-là dans le cadre d'une église, parce qu'on fait tous partie de l'église, n'est-ce pas? Puis on veut tous être sensibles à l'Esprit de Dieu pour ces choses-là. En passant, une bonne place où on peut se développer là-dedans, c'est le dimanche matin à la prière. Parce que quand on reçoit quelque chose, surtout quand on commence, c'est plus facile se pratiquer dans un contexte plus intime, n'est-ce pas? Amen. Quand on a un plus petit groupe, c'est moins intimidant de un. Et puis, si on se trompe, on fait moins de dégâts. C'est vrai aussi. Amen. OK. Sauf que ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter dans la grande assemblée. Si l'Esprit de Dieu dirige comme ça, il faut être ouvert. Puis la Bible dit « ne méprisez pas les prophéties ». OK, donc on va être ouvert, mais selon la direction du Saint-Esprit. Puis comme je vous ai donné des lignes directrices, ça peut vraiment nous aider. OK, maintenant... on va voir maintenant des lignes directrices pratiques pour l'exercice du ministère prophétique. Et ici, on va parler du ministère prophétique personnel. OK? Donc, il y a quelques points qu'on va voir ensemble. Première chose qu'on veut faire, c'est démystifier le prophétique. On veut démystifier ça. OK? 1 Corinthiens 14, verset 3, ça nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Ça, c'est dans la Bible Louis II qu'on a lu toute notre vie. Mais là, si je vous lis 1 Corinthiens 14, verset 3, le même verset, mais dans la Bible du Sommeur, ça nous dit « Celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. » OK? Donc, je vais vous relire. « Celui qui prophétise aide les autres à grandir. » Donc, c'est ça. Quand on parle de bâtir, on est en train d'aider à quelqu'un à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. OK? Donc, croyez que vous pouvez déclarer une parole de Dieu qui encourage, exhorte, qui console en écoutant la voix de Dieu qui vous parle. OK? Sauf que si on peut démystifier ça, des fois, on s'imagine la prophétie, c'est comme un nuage qui vient autour de notre tête. Et là, on entend des paroles. Et Dieu dit, tu vas prononcer ça sur telle personne. Puis là, on revient. J'ai une prophétie à donner. Non, c'est pas comme ça du tout. Ça arrive pas comme ça. Faut enlever le nuage de nos pensées, là. Une parole prophétique, ça peut juste être une parole qui est déposée dans nos cœurs. Puis c'est l'Esprit de Dieu qui a déposé cette parole-là. Et là, admettons, je reçois une parole pour Simon. Admettons. Là, je reçois une parole dans mon cœur et là, je lui partage la parole, tout simplement, et là, c'est une parole qui va venir l'aider à grandir dans la foi. On n'est pas obligé de trembler, notre voix n'est pas obligée de trembler, puis on n'est pas obligé de dire « Ainsi parle le Seigneur ». Surtout quand on peut se tromper. Parce que quand on se met à prophétiser, on y va avec ce qu'on ressent dans notre cœur. Ce que je ressens, c'est ceci pour toi. Est-ce que j'ai raison là-dedans? Puis c'est correct d'être vulnérable aussi. Puis la personne peut dire, ben pas vraiment, ben c'est correct, moi j'y allais avec ce que je ressentais, je me suis peut-être trompé. Ou peut-être la personne vous compte un mensonge aussi. Hein? Peut-être la personne va réaliser plus tard, en fait c'était vraiment vrai cette affaire-là. Vous comprenez? Ça fait que c'est correct d'être vulnérable. On n'est pas orgueilleux, on est prêt à s'humilier, n'est-ce pas? Amen. Ça fait qu'on peut dire, ben ce que je ressens, ce que je reçois, c'est ça. Est-ce que ça fait du sens? Et vous serez surpris du nombre de personnes qui sont là comme, oh wow! Comment? Hey, c'est vraiment merveilleux, ça me bénit. C'est juste Dieu qui pouvait savoir cette chose-là. Et Dieu a choisi de me parler en te parlant. Et puis toi, tu as choisi d'obéir. C'est ça qui est bien. Donc, on démystifie le prophétique. C'est celui qui prophétise, aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Êtes-vous capable d'encourager quelqu'un? Juste dans le naturel. Êtes-vous capable? Oui, vous êtes capable. Utilisez votre tête. Puis encourager quelqu'un. Êtes-vous capable de réconforter quelqu'un? Juste, oui, vous êtes capable. Mais les dons du Saint-Esprit sont surnaturels. Et la différence, c'est que là, les choses ne viennent pas de votre tête, ils viennent de votre cœur. Et ce que vous recevez, c'est des choses que l'Esprit de Dieu va vous donner. Ça vient quelque chose qui est imposé à vous. C'est comme vous recevez, mais vous le recevez parce que vous êtes ouvert. Et puis, vous aspirez à ce que le Seigneur se serve de vous. Mais quand on est fermé ou quand on est juste comme inconscient, on est là, bon, c'est pour les autres. Admettons, vous êtes comme ça, c'est pour les autres. Ça m'arrivera pas. Ben, ça n'arrivera pas parce que vous n'êtes pas dans la foi puis vous aspirez pas. Vous comprenez? Mais si vous changez ça puis vous dites, OK, la Bible dit aspirer. OK, je vais aspirer. Je veux vraiment brûler de zèle comme c'est écrit dans la Bible. Puis là, je crois que je suis un enfant de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Dieu me parle. Puis je vais prendre un pas par la foi puis je vais donner la parole que je ressens dans mon cœur. Puis si je me trompe, c'est pas la fin du monde. OK. Donc, on vient de démystifier le prophétique. Deuxième chose, adopter une position équilibrée du surnaturel. Une position équilibrée du surnaturel. Bon, j'ai lu un bon livre récemment sur le ministère prophétique. Et puis, l'auteur, il écrit des très bons livres. Et puis, ce livre-là, il était très, très bon. Mais en fait, ce qui est vraiment malheureux, c'est que vu qu'il a vécu des choses négatives dans sa vie, trois quarts du livre, ou quasiment 9 sur 10, tu sais, c'est comme, du livre, c'est quasiment juste une correction de l'abus du prophétique. OK? Sauf que si 90% du livre que j'ai lu, là, c'est la correction des abus, vous lisez ça, avez-vous le goût de prophétiser? Moi, je lisais ça et j'étais comme pas du tout inspiré parce que là, on voyait comment les gens avaient abusé du prophétique. Ça, faut faire attention. Il y a toujours deux côtés. Pas la médaille, je veux dire, mais il y a comme deux, il y a le chemin de l'équilibre, puis il y a comme des fossés sur les deux côtés. Puis on veut pas tomber dans des fossés, mais on veut marcher dans l'équilibre. Et il faut faire attention, parce que si on se nourrit des fois des choses qui sont très négatives, ça fait rien pour bâtir notre foi. J'ai lu ça, ça m'a pas du tout bâti, mais je voulais quand même comprendre sa position, parce que c'est un auteur qui a influencé beaucoup de chrétiens, puis c'est très bien, sa position est très très bonne, là. Mais malheureusement, vu qu'il parle plus du négatif que du positif, ça ne bâtit rien, dans mon cas. Là. L'auteur parlait des gens qui forçaient le prophétique, voulant manipuler les gens. L'abus nous a refroidis vis-à-vis les dons du Saint-Esprit. Donc, si on veut manipuler les gens, puis on a vu ça il y a quelques semaines aussi, là où on a eu le problème dans le monde prophétique, c'est quand on a voulu imposer notre volonté sur la vie de quelqu'un. Puis là, on veut manipuler en donnant des paroles pour que la personne fasse ce qu'on veut. Ça fait partie du royaume des ténèbres. Parce que quand on manipule quelqu'un, on est en train de faire comme les sorcières. La sorcellerie, c'est de manipuler les gens, les événements. Puis on veut manipuler les gens pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Et puis, comme j'ai prêché, là, peut-être 2-3 semaines, on veut fermer les portes à l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, on ne veut pas entrer dans la manipulation. C'est là le problème et le grand danger. Dans tout ce qu'on peut voir dans la prophétique, là où il y a du désordre, c'est de la manipulation. Mais si vous dites, mais moi, je ne veux pas manipuler personne, je veux être une source d'édification pour quelqu'un. Je veux édifier, je veux bâtir. Je ne suis pas là pour diriger la vie des gens. Donc, si vous n'êtes pas là pour diriger les gens, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige ses enfants, n'est-ce pas? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige, mais vous faites utiliser entre les mains de Dieu pour confirmer quelque chose. Et puis, quand vient le temps de donner une parole qui pourrait sembler donner une direction, c'est là où on pose la question. Je reçois quelque chose, dis-moi, est-ce que je me trompe? Et puis la personne, admettons, peut dire ceci, oui, ça fait du sens, je suis en train de prier là-dessus justement, puis vous ne dites pas, ben ainsi parle le Seigneur parce que Dieu me l'a dit, puis c'est ça qui est ça. Non, on est tous responsables devant Dieu à discerner ces choses-là. OK? Donc, c'est une chose. Adopter une position équilibrée du surnaturel. Des questions importantes aussi concernant l'équilibre. Devons-nous prier pour les malades seulement si nous ressentons l'onction du don des guérisons, par exemple? Est-ce que là, je ressens le don des guérisons, là, je peux prier pour les malades? Est-ce que c'est le seul moment où on devrait prier pour les malades? Non. OK? Bon. Mais pareillement, dans le prophétique, on peut se poser la question, devrions-nous seulement aider ou encourager quelqu'un si nous ressentons une onction particulière? Non! C'est pas parce qu'on ressent une onction nécessairement que, OK, là, je peux encourager quelqu'un. Non, je peux encourager quelqu'un, même si je ressens pas une onction tangible en ce moment-là, mais peut-être je commence à encourager ou le Seigneur me donne quelque chose pour quelqu'un et là, l'onction se manifeste de plus en plus parce que là, j'ai commencé. Vous comprenez? C'est super important parce qu'on a été totalement comme mis sur... on a mis nos breaks, là, où on est sur nos freins, parce qu'on s'imagine, ben j'ai pas ressenti une forte onction pour faire quelque chose, donc, en fait, je ressens jamais une forte onction, donc je fais jamais rien. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Jamais rien faire? Non, c'est pas ça. Dieu se cherche un peuple disponible. Un peuple disponible, mais qui veut pas forcer les choses. Qui ne veulent pas inventer les choses, mais des gens sensibles à l'Esprit de Dieu, qui sont à la recherche. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour cette personne-là? Ou qu'est-ce que je peux faire pour bénir cette personne-là? Je veux chercher à être une bénédiction à quelque part. Et là, Dieu va vous inspirer. OK. Nous devons plutôt vivre constamment dans l'Esprit et être toujours prêts à couler avec lui. C'est-à-dire que si je prends la décision, je veux toujours être connecté, je veux couler dans les dons du Saint-Esprit constamment, bien, c'est plutôt l'exception de sortir de cette dimension-là. Je peux choisir, je veux vivre constamment dans la présence de Dieu. Amen. OK. Vous êtes toujours avec moi? Personne s'endort, là? OK. Croyez que vous êtes un candidat pour pouvoir donner une prophétie. Aussi. Donc, on a vu, on veut démystifier pour les choses pratiques là, ce soir. On veut démystifier le prophétique. C'est pas super compliqué. Deuxième chose, adopter une position équilibrée. On veut jamais manipuler les gens. Une autre chose, croyez que vous êtes un candidat pour pouvoir donner une prophétie. Vous êtes un candidat. Le croyez-vous ce soir? Que vous êtes un candidat pour donner une parole prophétique. Bon, comment est-ce qu'on peut savoir ça? 1 Corinthiens 14, verset 31. Nous lisons, car vous pouvez tous prophétiser. Allez dans votre Bible. Allez-y dans votre Bible. 1 Corinthiens 14, verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, ce qu'on veut juste souligner, vous pouvez tous prophétiser. Encore une fois, le « tous », ça implique tout le monde. Amen. On peut tous prophétiser. Sommes-nous tous prophètes? Non. Non, il y a une différence entre l'office du prophète de Éphésiens 4, 11 à 16. Il y a l'office, puis on ne prendra pas le temps de décortiquer ça ce soir. Mais ces gens-là, en fait, les cinq ministères sont un don à l'Église. Mais aussi, on voit les dons du Saint-Esprit qui sont un don à l'Église. Donc, c'est le don qu'on peut, on peut opérer un don ou manifester un don selon la direction de l'Esprit de Dieu. Donc, cessez d'imaginer que vous ne pouvez pas bénir quelqu'un avec une ou des paroles de Dieu. Mais croyez-vous que Dieu peut vous donner une parole de bénédiction, d'encouragement ce soir? Une parole qui va édifier quelqu'un ce soir. Est-ce que c'est possible? Amen. Mais si ça dit, vous pouvez tous prophétiser. Ça veut dire, on est tous des candidats. Une autre chose qu'on veut voir, ayez confiance que l'Esprit Saint parle à votre esprit. Ayez confiance que l'Esprit Saint parle à votre esprit. Dans Jean 10, verset 27, nous lisons, « Mes brebis entendent ma voix. » Je les connais et elles me suivent. Une soirée qu'on a faite, c'était juste sur l'audition spirituelle, comme vous vous rappelez de ça. Donc, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, c'est une vérité. Il ne faut pas argumenter la Bible et dire, non, moi, je n'entends jamais la voix de Dieu. Non, la Bible dit que si vous êtes une brebis, vous entendez sa voix. C'est juste une réalité. Vous entendez sa voix. Le croyez-vous ce soir? Vous entendez la voix de Dieu. Si vous dites, non, je ne crois pas là. Oui, vous croyez-vous la Bible? Oui, bon, vous croyez la Bible? Êtes-vous une brebis du Seigneur? Bon, ça veut dire que vous entendez sa voix. Mais là, il faut juste synchroniser des fois votre signal, votre poste de radio au bon signal. C'est juste ça qu'il faut faire des fois. Parce que des fois, on écoute toujours autre chose. Puis notre attention est ailleurs. Mais si on peut juste dire, OK, Seigneur, je veux vraiment être sensible à ta voix. Et là, on est en train de synchroniser au bon poste. Proverbe 3, verset 5, dans la Bible du Sommeur, nous dit, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Là où on fait une erreur dans le prophétique. Si ça, admettons, vous examinez quelqu'un et là, vous êtes là, vous utilisez votre intelligence pour essayer de deviner le besoin de la personne. OK? Donc, quelqu'un semble peut-être triste. OK? Peut-être la personne a l'apparence triste. Mais peut-être que la personne est super heureuse puis ça ne paraît pas trop sur son visage. Ça peut arriver. Mais là, vous êtes là puis vous étudiez la personne. Ouais, OK, elle, je pense qu'elle est triste, là. Puis là, vous commencez. Ben Dieu, je pense que Dieu veut que je te dise que la joie de Dieu est ta force. Puis ça ne la touche pas du tout parce que, en fait, vous avez utilisé votre cerveau pour essayer d'être surnaturel. OK? Donc, le texte que je viens de lire dans Proverbe 3, verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Les dons du Saint-Esprit ne fonctionnent pas par l'évaluation mentale. OK? C'est dans votre cœur. Parce qu'une personne peut sembler vraiment heureuse. La personne est là, souriante, mais dans votre esprit, ça vous dit « Ah, elle est super triste en ce moment. » Ça se peut que c'est tout le contraire de ce que la personne est en train de démontrer. Puis dans votre esprit, vous sentez telle chose, puis vous faites dire « Dans mon esprit, ça me dit ceci pour toi. » Et puis là, la personne peut vraiment être rencontrée. Mais ça ne paraît pas nécessairement toujours de l'extérieur. Donc, ce n'est pas toujours à cause des choses que vous connaissez mentalement. Très important, ça. Et 1 Roi, chapitre 19, verset 12, ça nous parle que la voix de Dieu, c'est comme un murmure doux et léger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous parler d'une façon très, très forte, avec une voix grave, tout ça, mais un murmure doux et léger, tout simplement. C'est juste une petite voix intérieure. C'est comme votre voix, en fait. C'est pour ça, des fois, où on a du mal à discerner est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu. Bien, c'est ça. Comme j'ai expliqué aussi lors de notre dernière rencontre, c'est que quand c'est une parole spontanée, quand c'est une parole spontanée qui n'avait aucunement rapport avec votre conversation ou vos idées, ça vient juste comme ça. Et puis, c'est saint. Bien, gloire à Dieu. Typiquement, c'est Dieu qui vous parle. Mais quand, admettons, c'est une parole spontanée qui arrive et c'est une parole destructrice, bien, là, c'est le diable. OK? Donc, c'est une chose, mais j'ai illustré ça l'autre semaine là, avec, quand je vous ai raconté l'histoire de la Russie, par exemple, pour la louange, les conducteurs de la louange, il y avait un grand besoin en Russie, mais là, Dieu m'a imposé cette pensée-là. J'ai prié et puis Dieu a confirmé que oui, c'était bel et bien la requête de prière que je devais prier. OK, donc, ayez confiance que l'Esprit Saint parle à votre esprit. OK, un autre point, prophétiser comme Jésus. Prophétiser comme Jésus. Ça, c'est facile, hein? Je vous dis prophétiser comme Jésus prophétisait. Voilà, le cours serait fini, là. Faites exactement comme Jésus. Là, vous dites, wow, OK, c'est comment ça, là? Bien, vous pourrez lire à la maison Jean 4, versets 4 à 29. On ne prendra pas le temps de lire le récit ce soir. Jean, mais c'est le texte Jean, chapitre 4, versets 4 à 29. Faites comme Jésus avec la femme samaritaine. Jésus était surnaturel, mais Jésus aimait les gens. Prophétisez comme Jésus en aimant les gens. Ça, c'est la clé numéro un dans le ministère prophétique. C'est d'avoir le cœur de Dieu. Si on veut être sensible à l'Esprit de Dieu, Dieu est amour. Et ce que je veux faire, quand je crois que Dieu peut se servir de moi, par exemple, je veux aimer les gens comme Dieu les aime. Je veux voir les gens comme Dieu les voit. Vous comprenez? Ça, c'est une chose super importante. Si je peux vraiment parler d'un cœur rempli de compassion, c'est là où Dieu travaille. L'Esprit de Dieu là, va vous parler pour quelqu'un en démontrant la valeur de la personne. C'est que vous parlez à quelqu'un, là, Dieu va vous montrer, cette personne-là, là, j'ai envoyé mon fils Jésus mourir sur la croix pour cette personne-là. Je l'aime avec un amour éternel. Je veux la sauver. Puis je vais remplir votre bouche pour lui dire les paroles d'amour que j'ai pour elle. Voyez-vous? Puis ça, là, c'est pour ça, si vous pouvez juste connecter avec le cœur de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là? Qu'est-ce que je peux faire pour bien représenter ton royaume? Peu importe l'affaire, peu importe le don. Là, vous êtes ouvert, vous voulez recevoir de Dieu pour la personne. Dieu va vous dire, voici comment aimer. On peut tout résoudre là-dedans, là, ou résumer là, le cours sur le ministère surnaturel en ayant le cœur de Dieu pour les gens. Si je peux aimer les gens, pouvez-vous juste enregistrer ça? Admettons, vous effacez tout ce que j'ai dit là, jusqu'à présent. Puis ça se résume là-dedans. Aimer les gens. Ayez le cœur de Dieu pour les gens, puis parlez au nom de Dieu en aimant les gens. Dans l'Apocalypse 19, verset 10, ça nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, quand on prophétise, on ne peut pas séparer le ministère prophétique sans Jésus. Jésus en fait partie et Jésus est amour. Donc, la question, quel est ton cœur, Seigneur, pour cette personne? Tout simplement, quel est ton cœur, Seigneur, pour cette personne? Et là, examinez, que ressentez-vous? Que ressentez-vous? Et vous savez, quand on se positionne dans la foi, c'est là, puis on marche dans l'amour. Là. Puis c'est pas juste le dimanche matin, mais dans notre vie, on est là, puis on dit, Seigneur, je veux marcher dans l'amour. Ce qui se produit parfois, puis je parlais aujourd'hui avec le frère Bertrand Bouchard, depuis 50 ans, lui, il reçoit dans son corps des symptômes. Dans le sens, en faisant le ministère, il peut ressentir, mettons, quelqu'un mal au bras. Mais il n'a pas mal au bras dans le naturel. Mais il ressent dans son bras, admettons, la douleur. Puis il réalise que ce n'est pas une douleur qui lui appartient, c'est juste Dieu qui est en train de lui dire, regarde, il y a quelqu'un ici là, qui ressent telle chose. Puis là, il va dire, OK, il y a quelqu'un qui a mal au bras, admettons. La personne se lève, il va prier pour la personne, la douleur disparaît. Parce que c'était comme l'identification, c'est comme une sorte d'intercession, si on veut, où la personne s'identifie aux besoins vraiment. Puis Dieu révèle comme ça. Moi, je n'ai pas vécu ça comme ça. Moi, des fois, la façon que Dieu m'a parlé, c'est simplement avec des paroles que j'entends dans mon esprit. Mais lui, ça a souvent été comme ça, dans la jambe. Quelqu'un a mal dans la jambe, quelqu'un a mal ici. Mais il ressent physiquement, c'est pas une douleur que « Ah! » Vous savez, c'est pas de la torture. C'est juste une sensibilité où Dieu lui montre. Il y a quelqu'un, c'est exactement là. Puis là, il peut s'identifier avec la personne. OK? Dans Hébreux 4, 15, on voit ici, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Mais Jésus était touché, il est encore touché avec nos faiblesses. Donc, il y a un cœur compatissant pour nous. Et si on représente le Seigneur, on peut aussi être touché dans notre cœur pour les personnes qu'on va rejoindre avec l'Évangile. OK, l'expérience de plusieurs ministères, comme je vous dis, c'est une touche physique même qui peut arriver. Donc, ça se peut ce soir même, quand vous allez prier, que Dieu va vous montrer une douleur, puis c'est pas la vôtre, c'est la douleur de votre voisin. Est-ce que ça se peut, ça? Oui. Amen. OK, prophétiser la vie et non la mort sur les gens. Dans Proverbes 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, comme on a déjà vu, on ne veut jamais manipuler les gens. On ne donnera pas des paroles qui dirigent la vie des gens parce qu'on ne prend pas le rôle du Saint-Esprit. Mais si vous ressentez une direction, une parole qui donne une direction particulière, questionnez la personne avec humilité, vous pouvez vous tromper. Acceptez la critique de la parole, vous n'êtes pas la parole en question. Si vous ressentez quelque chose, puis vous dites que la personne refuse la parole, elle ne vous refuse pas, OK? Mais elle refuse peut-être juste la parole. Il faut avoir la maturité aussi pour dire, bien, je peux me tromper. Puis si je me trompe, c'est correct. Si on n'est pas mature, on va être offusqué. En fait, la raison pour laquelle on a autant de problèmes, c'est que souvent, on n'a pas eu la place où on pouvait se développer, frères et sœurs. On n'a pas pu se développer parce que c'est comme on vient au monde, dans le monde spirituel, dans le monde du ministère, puis du jour au lendemain, il faut qu'on soit un expert parce qu'on se dit, bien là, ça vient de Dieu, le don est parfait, donc moi, je dois être parfait. Est-ce que ça se peut que le don est parfait puis que vous êtes toujours imparfait? Oui, tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est parfait. Dieu ne donne rien à 50%. Bien, ça, c'est pas mal bon. Je l'ai pogné en spécial. Non, tout ce que Dieu nous donne, c'est super parfait, c'est bon, c'est merveilleux. Mais on est des êtres humains. Est-ce que ça se peut qu'on a besoin de grandir et avoir de l'expérience dans ces choses-là? Je suis sûr que le frère Bouchard qui prie pour les malades aujourd'hui, après 50 ans de ministère, il prie d'une autre façon peut-être que lorsqu'il avait juste commencé. Est-ce que ça se peut, ça? Mais on n'a pas eu de lieu de sécurité où on pouvait se développer. Sauf que là, quand on prend un pas par la foi, là, je donne une parole, là, c'est comme, ça tremble par en dedans, mon cœur se débat comme ça, puis je suis stressé parce que là, je prends un pas par la foi, puis je me trompe. Ah, ben là, c'est quoi? Puis là, les gens, c'est comme, c'était pas vraiment vrai, c'est dans le champ, ça. Là, c'est comme, vous comprenez? Là, je suis comme, c'est terrible, je me suis trompé, puis là, je suis humilié devant tout le monde, parce qu'il n'y a pas un autre chat en place qui a décidé jamais de prendre un pas par la foi, je suis seul à le faire parce que les autres ont tous peur. Puis là, finalement, là, tout le monde a peur. On a peur de se tromper. On pense que si on se trompe, on va être lapidé. Il y a toutes sortes de pensées. On va être décrit ou on va recevoir l'étiquette qu'on est un faux prophète. Toutes ces choses-là nous ont fait du tort. Et en plus, là, admettons, quelqu'un a donné une parole qui pensait que c'était de Dieu, mais vu qu'elle n'avait pas reçu l'enseignement, là, elle s'est trompée. Puis là, elle devient arrogante parce que non, je ne me suis pas trompé. Je sais, c'est Dieu. Puis là, elle a toutes sortes de réactions comme ça. Puis qu'est-ce que ça fait? Là, ça fait des clics. Des gens prophétiques ensemble, tout seuls dans leur maison. Ils vont plus à l'église, ils sont juste dans leur maison. Puis, tu vois, on prophétise, puis on connaît toutes choses. Là, ça fait. C'est encore du désordre. Mais en réalité, c'est la faute de l'église. Hein? Parce qu'on n'a pas donné une place, on n'a pas formé les gens là-dedans. On a donné beaucoup de connaissances, des fois, sur les choses bibliques. On a donné les vrais enseignements, mais on n'a pas donné la place au développement. Puis c'est pour ça qu'on a la chapelle. C'est pour que vous puissiez vous développer là-dedans. Comme quand j'étais à l'école biblique, on avait les cours de formation, mais on avait la chapelle chaque matin. On avait une réunion de chapelle où c'était les étudiants qui mettaient en pratique l'œuvre ou les choses qu'on apprenait. Puis c'est une chose, je trouve que c'est une bénédiction pour nous dans l'Église qu'on puisse faire ça. OK. Donc, mon avant-dernier point, puis après on va commencer à vivre des choses ensemble. Comprenez que l'apprentissage spirituel est une réalité, que vous le croyez ou non. Okay? Même si Dieu parle surnaturellement, vous devez apprendre à discerner la voix de l'Esprit et apprendre à couler avec lui. 1 Corinthiens 14, ça c'est super important. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 14, verset 31. Ici, là, ça va vous faire du bien, je crois. Ça va vous aider. Je vous donne des choses pratiques ce soir, là, parce que vous pouvez tous prophétiser, mais on a tous besoin d'apprendre là-dedans. On a tous besoin de grandir. Donc, 1 Corinthiens 14, 31. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits, on l'a vu là au début de la soirée, et que tous soient exhortés. On lit en français dans Louis II, et savez-vous comment je l'ai lu moi des années de temps? Je l'ai lu comme ceci. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits. Donc on prophétise quand ceux qui vont prophétiser vont instruire les gens. C'est moi que je l'entendais. Je vais vous relire. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ben oui, c'est ça se peut que Dieu va donner une parole à quelqu'un pour qu'on soit tous instruits ensemble. Mais regardez, on va lire maintenant dans la Bible Darby. Une bonne vieille traduction. Car vous pouvez tous prophétiser un à un afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Voir aussi la version Osterwald, Martin et Chouraki pour la traduction. Donc, vous pouvez tous prophétiser un à un ou à chacun votre tour, afin que tous apprennent. Apprennent quoi? Apprennent à prophétiser. Le voyez-vous? Il y en a un. Regardez, car vous pouvez tous prophétiser un à un afin que tous apprennent à prophétiser. Moi, je l'ai rajouté dans mes commentaires. Afin que tous puissent apprendre à prophétiser. C'est pas juste qu'on soit tous instruits dans la parole qui va avoir été prophétisée, mais qu'on puisse tous, un à un, prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser afin que tous puissent apprendre à prophétiser. C'est de même que je comprends ça. Pourquoi vous pouvez tous prophétiser? Puis pourquoi qu'on dit ça afin que tous soient instruits? Bien, instruits dans la prophétie, dans le ministère prophétique. Donc, c'est pour tout le monde. Mais à quelque part, il y a de l'apprentissage à y avoir. Donc, vous pouvez tous prophétiser un à un afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. OK? Donc, voilà, moi, c'est la position que je crois. Je crois pas que personne qui vient au monde, même si on a l'appel de Dieu sur notre vie, même si les dons du Saint-Esprit viennent et ils sont parfaits, je crois qu'on peut toujours grandir dans les dons du Saint-Esprit. Je crois qu'on peut devenir plus en plus mature, même au niveau de la guérison divine. On peut grandir. Je me souviens, Oral Roberts, il y avait des ministres qui étaient avec lui. Puis lui, il savait comment prier pour les malades. Il guérissait les malades au nom de Jésus. Puis il avait dit à un évangéliste qui était avec lui, on va prier pour les malades. Puis il y avait les pires cas, là, qu'on dirait nous humainement, les gens avec le cancer qui est en train de mourir, comme qui était vraiment à la fin. Puis là, il a dit, ben là, toi, tu vas prier pour les gens qui ont le cancer, qui sont dans la tente, la dernière tente où c'est les gens qui sont en train de mourir. Là. Puis c'est demain que tu vas commencer. T'es comme, hein? Ouais, c'est ça ma job, moi. Ouais, c'est ça ta job. Moi, je veux ceux qui ont un mal de tête. Là. Non, toi, ça va être ceux qui sont mourants du cancer. Hein? Bon, sauf que là, il a imposé les mains sur une petite madame qui avait le cancer. Il impose les mains. Puis là, Oral Roberts, il a dit, non, t'as fait ça trop vite. Imaginez, quelqu'un est en train de mourir du cancer, puis Oral Roberts vous enseigne, puis tu commences là, toi. Puis déjà là, on impose les mains, puis là, non, tu le fais pas correct. Bon, tout. C'est un petit peu intimidant. Comment je fais ça? T'sais, comment on sait pas trop comment faire. Il dit, prépare-toi. Là, il dit, t'as l'onction de Dieu et la foi. Mais il dit, t'impose les mains uniquement le moment que t'es prêt à relâcher ta foi. Parce que la foi, c'est une substance tangible. Là. Et la foi déplace les montagnes. Impose pas les mains jusqu'au moment où t'es prêt à relâcher ta foi en autre concentration, en autre mot. Sauf que là, puis prie, au nom de Jésus, sois guéri. Et la personne qui avait le cancer guérit d'un seul coup, comme ça. Bon, il a appris par quelqu'un d'autre qui a expliqué comment faire. Bon, on pourrait dire, ben là, ça vient de Dieu, on n'a rien à apprendre, c'est naturel. C'est dans les choses de Dieu, on peut grandir. Mais comment grandir? C'est en ayant de l'expérience. Si on n'a jamais d'expérience, jamais d'opportunité, c'est difficile. OK. Et mon avant-dernier verset ce soir, dans Hébreux 5, 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou les hommes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Et dans Bible du Sommeur, le même verset, ça dit « Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté, en parlant des facultés spirituelles, là, à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » Ce soir, on ne va pas distinguer entre les péchés puis distinguer entre le bien comme ça. On va plus faire comme c'est écrit. On va avoir des opportunités où on peut grandir. Des opportunités de service, des opportunités ministérielles. OK? Donc, le point que je voulais souligner ici, comprenez que l'apprentissage spirituel est une réalité que vous le croyez ou non. On peut grandir là-dedans. Est-ce qu'on peut faire le ménage puis s'imaginer puis enlever ça, l'idée qu'on va juste commencer à faire quelque chose quand on va être parfait? Oui? C'est ça. On peut attendre très longtemps si on attend d'être parfait puis jamais se tromper. Et mon dernier point de la soirée. Comprenez que la timidité et l'orgueil sont des jumeaux. La timidité et l'orgueil sont des jumeaux. 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La racine de la crainte, c'est peur de se tromper. Ici, on parle de la crainte concernant le prophétique. J'ai peur de me tromper. J'ai une réputation à protéger. J'ai peur de l'opinion des gens, la crainte de l'homme. C'est rien de beau, ça. Rien de positif, n'est-ce pas? Donc, on peut voir la timidité et l'orgueil. C'est comme ils marchent ensemble, ils sont habillés pareil, là, des petits jumeaux. Bonjour, je m'appelle timidité. Bonjour, je m'appelle orgueil. Vous ne voulez pas les avoir dans vos vies. Vous voulez les chasser. Il dit non, va-t'en de chez nous parce que Dieu m'a donné un esprit de force. Donc, j'ai le courage. Là. Et d'amour. J'aime plus mon frère que je m'aime moi-même. Voyez-vous ça? Dieu m'a donné un esprit de force. Donc, je suis capable de le faire parce que Dieu ne me donnera rien qui dépasse mes capacités. Dieu me donne la force. Et aussi l'amour. Donc, je vais aimer mon frère. Mais comment est-ce que je vais vraiment aimer? Je vais être connecté avec l'Esprit de Dieu pour recevoir de Dieu un cadeau pour mon frère. Puis je vais lui donner. Et de sagesse. Puis je vais marcher dans la sagesse qu'on vient d'apprendre ce soir. Plein de choses. Je ne commencerai pas à manipuler mon frère. Je ne commencerai pas à le détruire. Parce que la prophétie, c'est là pour exhorter, consoler, édifier ces bonnes choses-là. Donc, je vais appliquer la parole de Dieu d'une façon sage pour que mon frère soit édifié, bâti, encouragé. Et puis, l'onction de Dieu est disponible pour nous en tout moment. Donc, je dois décider d'être dans l'onction. Et puis là, les dons du Saint-Esprit peuvent se manifester. Est-ce que c'est clair ce soir? Amen. Moi, je crois que Dieu veut une armée au Québec de frères et sœurs remplis du Saint-Esprit, qui sont connectés avec l'Esprit de Dieu, qui sont des porte-paroles du Seigneur, qui sont les extensions de Jésus sur la terre, que vos mains prient pour les malades, que vos pieds se dirigent vers les gens que Dieu vous appelle à rejoindre. Vous allez même, que votre esprit, la nuit, vous recevez des songes, des visions, vous priez. Moi, je trouve ça merveilleux. En passant, je vais vous dire, à la fin de chaque soirée, comme on a fait, souvent, j'ai posé la question, qui a reçu une parole? Puis des fois, là, c'était très timide. Mais après, les gens viennent me voir. « Mais moi, j'ai reçu ça. Moi, j'ai reçu ça. Moi, j'ai reçu ça. » Et dans la semaine, « Moi, j'ai reçu une vision. Moi, j'ai reçu un songe. » Dans la semaine, tout le monde, le popcorn, tout, et comment c'est activé. Mais dans la soirée, non, c'est pas moi. C'est pourquoi ça? On a peur. Mais est-ce qu'on peut faire le ménage? Puis je dis, non, moi, j'aurais pas peur. Puis si vous vous trompez, je le répète, savez-vous, on va se réjouir qu'au moins vous avez essayé. On va se réjouir au moins que vous avez pris le pas par la foi que le Seigneur vous parlait. C'est mieux ça, prendre un pas par la foi puis faire quelque chose que de dire, ben, je me suis jamais trompé, moi. Et j'ai jamais rien fait non plus, là, mais je me suis jamais trompé. Hein?
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.